Du coup, de culture générale. Le monde partage entre les Bnei Israël, les descendants de Israël, c'est-à-dire de Yaakov, et les Bnei Noach, les descendants de Noach. C'est-à-dire la quasi-totalité du monde sont descendants de Noé. Les Bnei Yaakov, c'était descendants de Noé aussi. Mais le choix qu'a fait Abraham Avinu, puis ensuite, donc, Yitzhak et Yaakov, a fait ils sont sortis de la condition de Bnei Noach et qu'ils ont une condition plus exigeante, différente, qui est celle des Bnei Israël. Alors, sur les Bnei Israël, on a déjà beaucoup parlé. Il y a toute la Torah qui raconte beaucoup de choses sur les Bnei Israël depuis leur début. Et notre question ce soir, c'est de savoir qu'est-ce que la Torah nous dit des Bnei Noach. Qu'est-ce qu'on sait des Bnei Noach? On sait qui ils sont, mais quelle est la caractéristique des Bnei Noach? Alors, il y a une Gemara qui s'occupe de nous le dire, en fait. La Gemara, elle est au début du traité Avodah Zarah. Et la Gemara, elle rapporte la chose de la manière suivante. La Gemara, elle dit que les Atid Lavo, dans le futur, Akadosh Baruch Hu va prendre un Sefer Torah, il va le mettre de Chéko, ça veut dire il va le mettre contre lui, donc montrer que c'est quelque chose qui lui est cher, quelque chose à laquelle il tient. Et il va dire que tous ceux qui se sont occupés de ça, il va pointer avec le doigt. On peut parler comme ça sur le Sefer Torah. Curieusement, il dit pas tous ceux qui se sont occupés de Torah, mais de ça, dans le rouleau de Torah, qui viennent et qui prennent et qui reçoivent leur salaire. Alors, la Gemara dit que tous les peuples se précipitent pour recevoir leur salaire. C'est étonnant de qui pensent tous, qui se sont occupés de ça. Bah, putain, ils sont des menteurs. Alors, on compte bien entendu qu'on est à la fin des temps, mais alors, ils ne peuvent pas mentir devant Hachem. Donc, en réalité, il faut expliquer pourquoi ils pensent qu'ils peuvent répondre positivement. Quand Hachem dit que tous ceux qui se sont occupés de cela viennent réclamer recevoir leur salaire, ils sont justifiés de venir et de le réclamer, ce salaire. Alors d'où est-ce que ça vient? Alors c'est toujours la même histoire. Nous sommes à la fin des temps.
Merci.
Et à la fin des temps,
J'ai oublié.
tout le monde comprend.
Pas grave. Merci.
Vous fermez
Je
vos. Voulez-vous bien fermer vos microphones, s'il vous plaît? À la fin des temps, tout le monde comprend la vérité. Et la vérité, c'est que les Bnei Israël avaient raison. Les Bnei Israël qui se sont occupés de Torah. Et finalement, ils comprennent que finalement, comme le but de l'exercice, c'était ce que recherchaient les Bnei Israël, ils étaient fidèles à ce que Hachem avait fixé comme programme pour le monde, avec la reconnaissance d'Hachem dans le monde. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils se rendent compte que finalement, ce qu'ils ont fait a servi aux Bnei Israël. Et puisque ça a servi aux Bnei Israël, d'une manière ou d'une autre, ils peuvent dire, nous sommes peut-être indirectement, mais quand même, nous avons fait des choses qui ont aidé les Bnei Israël à étudier la Torah. Certains racontent que sur cette Gemara, le Rav de Brisk avait expliqué que quand on a fabriqué le transsibérien, après coup, il s'est avéré que toute la construction du transsibérien était là essentiellement pour permettre à la Yeshiva de Mir de fuir pendant la guerre et d'arriver jusqu'à Shanghai. C'est vrai que grâce aux Transsibériens, ils sont arrivés là-bas. Donc ça a sauvé la Yeshiva de Mir. Et tout est à l'avenant, en fait. Donc ils sont justifiés de dire, on a été objectivement les collaborateurs d'Ebné Israël. On n'a pas visé, mais on était objectivement collaborateurs. Alors, ils se sont tous précipités. Donc, comme ils étaient tous les uns sur les autres, Hachem a dit, je ne veux pas que vous soyez mêlés les uns avec les autres. Il faut que chaque peuple vienne séparément de telle sorte que chaque peuple, puisse défendre, sa position sans être, dérangé ou un peu parasité par ce que les autres disent autour de lui. Donc, ils vont venir les uns après les autres. Les premiers à se présenter, c'est les Romains. Pourquoi est-ce que c'est les Romains qui se présentent en premier? Parce que Rome est une puissance dominante, en quelque sorte. En l'Agmara, c'est vrai, en tout cas. Attendez, il y a du monde dans la salle d'attente. En fait, on ne voit pas. Ah, voilà. Donc, les Romains viennent et ils disent la chose suivante. Ils disent, nous avons installé des marchés, des foires. Grand marché, de grandes foires. Nous avons construit partout des bains publics et nous avons multiplié l'or et l'argent. Et tout cela, nous ne l'avons fait en fait que pour que Israël puisse étudier la Torah. Encore une fois, quand ils disent que ça, ils veulent dire, nous, on ne savait pas. Mais maintenant, il s'avère que tout ce que nous avons fait, finalement, ça n'a été qu'au service de la chose la plus importante, ce pourquoi le monde avait été créé, c'est-à-dire pour l'étude de la Torah. Le Hachem ne leur dit pas, vous êtes des menteurs. Parce que on comprend pourquoi ils le disent. Mais il leur dit, vous êtes des imbéciles. Imbéciles parce que vous vous imaginez qu'on va valider ce que vous avez fait comme étant quelque chose qui a été fait pour Israël. C'est vrai qu'Israël l'a utilisé. Mais on ne va pas valider que vous avez fait les choses pour Israël. Pourquoi? Parce que ce que vous avez fait, vous ne l'avez fait que pour vous-même. Alors, on n'est pas en train de leur dire, vous n'avez pas fait pour Israël. On n'est pas fou, on rêve pas. Mais ce que vous avez fait, vous ne l'avez fait que pour vous-même et pas du tout pour tous les peuples que les Romains ont dominés, etc. Les choses n'étaient pas faites pour les Romains, pour les non-Romains. C'est pour les Romains. Ça veut dire que dans ce que vous avez fait, il n'y avait aucune dimension de générosité. Il n'y avait rien qui était fait pour d'autres, ou aussi pour d'autres. C'était fait uniquement, fait refermer pour soi, que pour vous. Alors, que ça veut dire pour vous, quelle était la finalité des marchés qu'ils ont ouverts? Hachem dit, vous avez organisé des foires, des grands marchés uniquement pour y placer des prostituées. Les bains publics, ils ont été faits seulement pour que vous preniez vos plaisirs, vous preniez votre pied à prendre des bains, etc. Et quant à l'or et l'argent que vous avez multiplié, c'est pas vous. L'or et l'argent, dit Hachem, c'est moi. Vous n'avez pas créé l'or, vous n'avez pas créé l'argent, c'est moi qui ai créé ça. Bon. Donc, ils sont complètement un peu, ils sont secoués, quoi. Ils n'ont rien. Alors, Hachem dit, mais on vit encore un point. Est-ce que il y a chez vous quelqu'un qui a dit, qui a enseigné ou dit quelque chose qui est de l'ordre de la Torah? D'accord, vous n'avez pas aidé les Bnei Israël, mais peut-être que vous avez dit quelque chose, enseigné quelque chose. Peut-être que dans votre législation, il y avait des éléments de Torah. Il n'y a pas. Donc, exit Rome. Pardon, pour les Romains, il n'y avait pas? Non? Je pense que ça, ce n'est pas pour les Romains. Les seconds à venir et à dire on vient chercher notre salaire, ce sont les Perses. Alors la première question qui se pose, c'est, ayant vu la façon dont les Romains se sont fait jeter, les Perses, pourquoi ils viennent? Ils vont se faire jeter de la même manière. Alors en fait, les Perses, ils se sont dit, les Romains, ils ont été jetés parce que eux, ils ont détruit le Beth Amikdash. Mais nous, on l'a construit. On a construit le deuxième Beth Amikdash. Donc, ça nous fait, en quelque sorte, des points positifs que n'avaient pas, évidemment, les Romains. Donc, peut-être qu'on a une chance de s'en sortir. On a quand même fait quelque chose. Mais ils disent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, nous avons fait des ponts. Nous avons conquis des villes et des villages. Et troisièmement, nous avons fait des guerres. Faire des ponts, c'est une chose très importante parce que ça permet la communication. C'est magnifique en réalité. Les villes et les villages qu'ils ont conquis, ils ont amené la civilisation perse, qui était une grande civilisation. Et la guerre, c'est des moments où, durant la guerre, il y a des choses, des efforts que le peuple et les gens sont prêts à faire, qui ne sont pas prêts à faire en temps de paix. Et donc, à la limite, ça a permis de développer des choses qui jamais n'auraient été développées si ce n'était pas la guerre. Alors, même remarque, ce que vous avez fait, vous l'avez fait uniquement pour vous. Vous avez fait des ponts, mais au lieu que les ponts servent à la communication, les ponts pour vous, ils ont permis d'installer des péages. Donc, d'une certaine manière, vous avez fait miroiter qu'il y avait la possibilité de communiquer, mais éventuellement, vous ne pouvez pas le faire parce que vos péages étaient trop élevés ou les conditions pour pouvoir passer n'étaient pas réalisables pour tout le monde. Ensuite, la conquête. En fait, quand vous avez conquis ces villes et ces villages, c'est uniquement pour faire main basse sur les jeunes gens pour les incorporer à vos troupes, à vos armées, et pas du tout pour leur apporter la civilisation perse. Et quant à la guerre, dit Hachem, la guerre c'est moi. Hachem Ish Milchama, la guerre c'est moi qui décide de la guerre, c'est pas vous. Bon. Alors Hachem leur dit, est-ce que, comme pour les Romains, est-ce que quelqu'un a enseigné un peu de Torah. Non, personne. Excite les Perses. Et tous les autres peuples, la Gemara, elle ne prend pas la peine de les énumérer. Tous les autres, c'est la même chose. Pardon, pardon? Parce que parce que c'était très indirect, et dans la mesure où, effectivement, c'était des gens exceptionnels, c'est pas caractéristique probablement de la Perse, c'est pas une démarche perse, c'était démarche d'un certain roi, il y a des autres rois qui n'étaient pas d'accord. Bien sûr, la Gemara, elle continue. Ils vont dire, oui, mais si tu nous avais envoyé un bonhomme comme Moshe, on aurait aussi. Et puis après, on dit, mais si tu nous avais donné de la Torah, si tu nous avais obligé. Hachem dit, donne-nous maintenant des mitzvot, tu vas voir, on va les faire. Hachem dit, c'est trop tard maintenant. Maintenant, c'est le monde du salaire, on n'est plus dans le monde de faire quelque chose. Quand finalement, il accepte de leur donner une mitzvah, mais je ne vais pas entrer dans la suite de la Gemara, ce n'est pas directement mon propos. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les peuples sont caractérisés par le fait d'un manque de générosité. C'est-à-dire par un ego surdimensionné. Il y a que moi, il n'y a que moi qui existe, il n'y en a que pour moi. Ça, c'est le constat à la fin des temps, c'est le constat qui est fait, voilà, voilà ce que sont les Umot Haolam. Alors c'est intéressant, ça veut dire que ils ont fait des choses qui ont bénéficié au Bnei Israël. À la limite, ça justifie leur existence. Mais le salaire, il est seulement dû quand on s'est occupé de Torah. Alors ça veut dire s'être occupé, enfin, avoir été ceux qui ont fait que les Bnei Israël ont pu en profiter, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour être considéré comme ayant un rapport avec la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est depuis le début jusqu'à la fin, Maaseh Chesed. C'est du Chesed qu'Hachem a créé le monde, c'est du Chesed quand Hachem a enterré, à la fin de la Torah, il a enterré Moshe Rabbeinu. Donc, s'il n'y a pas de dimension de Chesed, il n'y a rien qui commence. C'est pour ça, probablement, que le Klal Israël commence avec le Chesed d'Abraham Avinu. Alors, dans le Chesed d'Abraham Avinu a fait, il y a énormément de choses qui sont appelées chesed. Et une grande partie de ces choses-là ne sont pas des mitzvot tant que telles. Dans la paracha qu'on a lue ce Shabbat, la paracha, elle commence par le dévoilement d'Hachem à Avraham Avinu. Et Rachid dit, qu'est-ce qu'Hachem est venu dire à Abraham, puisqu'il ne vient pas lui donner une prophétie. Abraham est un prophète. Normalement, quand Hachem parle aux gens, quand il vient chez les gens, c'est pour leur donner un message, une prophétie qu'ils ont ou bien à répercuter, ou bien à garder pour eux, mais un message. Là, il n'y a aucun message. Pas de message. Alors Rachid a compris, enfin, c'est Razal, Rachid ramène Razal, que en fait, Hachem est venu, le vaquer est accolé. Il est venu pour rendre visite aux malades. Il y a par la suite d'autres situations où Hachem fait des choses qui sont de l'ordre du chesed, mais qui ne sont pas des mitzvot. Il n'y a pas de mitzvah dans la Torah, dans les 613 mitzvot, il n'y a pas une mitzvah de Bikur Cholim. Il n'y a pas de mitzvah d'Achnasat Orchim. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas une mitzvah. C'est un détail d'une mitzvah, par exemple, Achnasat Orchim. Achnasat Orchim, c'est présenté comme quelque chose qui, d'après certains, est un dérivé de la mitzvah de Ve'ahavta l'Rekha Kamocha. Le Shlach HaKadosh, il est mechadesh que Achnasat Orchim n'est pas un dérivé, un détail de la mitzvah de Ve'ahavta l'Rekha Kamocha, mais il est un dérivé de la mitzvah de Ve'ahalachta bidrachav, tu suivras les chemins d'Hachem. Tu feras comme Hachem. Alors, il fait une liste, effectivement, de tout ce qu'Hachem a fait qui est de l'ordre du chesed, et nous sommes invités à le faire, mais il demande, mais où est Achnasat Orchim? Où est-ce qu'Hachem a fait Achnasat Orchim? Pas fait Achnasat Orchim, Hachem. Il n'a pas reçu des gens. Alors, le Shlach HaKadosh répond qu'en réalité, HaKadosh Baruch Hu, il nous reçoit dans son monde. C'est-à-dire, il fait Achnasat Orchim 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, nous sommes reçus dans le monde d'Hachem. Et ça, c'est Achnasat Orchim. Alors, on a cette situation très intéressante. Il y a 613 mitzvot, mais il y a des parshiot dans lesquelles il n'y a absolument aucune mitzvah. Il y a des paragraphes dans lesquels il n'y a pas de mitzvah. Mais là, en plus, la paracha de Vayera qu'on a lue, c'est une paracha dans laquelle il n'y a pas de mitzvah. Alors, à quoi ça sert d'avoir ces parshiot s'il n'y a pas de mitzvah? Alors, le Gaon de Vilna répond qu'en réalité, les 613 mitzvot, c'est 613 principes généraux. Mais les détails des mitzvot, c'est une infinité de détails. Et ces détails, on les trouve justement dans les textes de la Torah qui ne contiennent pas de mitzvah explicite, mais on voit que Hachem, ou on voit que Abraham, ou on voit que Tzedakah des modèles se comportent de cette manière-là, et ça nous est une leçon. Puis ensuite, on a un travail à faire, comme on vient de voir ici, pour savoir à quelle mitzvah ça se rattache. On sait que c'est de l'ordre d'une mitzvah, mais on ne sait pas, puisqu'il y a une marloquette, ceux qui disent que ça vient de Ahavta l'Rakamocha, peut-être, et d'autres qui disent que c'est Ve'ahalachta bidrachav. Ça, c'est déjà le travail du Talmud, si vous voulez. Mais ça, apprendre cette façon de se conduire, c'est une chose, ça s'apprend du texte. Après, de quelle mitzvah ça relève, ça viendra après. Et donc, en particulier, tout ce qui est de l'ordre du chesed, ça entre dans Gmilut Chassadim, ça entre. Bon, c'est énorme, et c'est pour ça que quand on dit la Torah, elle est, depuis le début jusqu'à la fin, elle est pleine de chesed. Donc, si quelqu'un, un peuple qui ne pratique pas le chesed, il n'a rien à voir avec la Torah, même si, effectivement, ce qu'il a fait a servi objectivement au Bnei Israël à pouvoir étudier. Ya? La Gemara dit, parce qu'en réalité, le chesed des goyim, il est toujours intéressé. Ça, encore une fois, on parle ici de la collectivité, on ne parle pas des individus. Évidemment qu'il y a des individus qui sortent de l'ordinaire et qui ont fait des choses indiscutablement remarquables, compris pour des Bnei Israël, donc, qui ont risqué leur peau pendant la guerre, sauver des Bnei Israël, alors qu'il y a ceux qui ont profité, il y a ceux qui n'avaient rien à gagner dans ce qu'ils ont fait, sauf que ils ont fait ça par, a priori, peut-être pour être en accord avec leur conscience, mais bon, c'est déjà pas mal. Et d'un autre côté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas chez les Bnei Israël des gens qui se conduisent mal, qui effectivement ne sont pas des Baalei Chesed. Les Bnei Israël sont globalement Baalei Chesed. Le Chesed du clan Israël est souvent impressionnant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des individus ne sont pas à la hauteur, c'est toujours possible. Il s'agit ici de peuples. Plan Israël d'un côté, les Yomot Haolam d'un autre.
Par hospitalité, c'est possible
Oui, bien sûr.
pour certaines
Oui.
professions.
Oui, alors normalement, on voit très bien que une des raisons pour lesquelles Amon et Moab ne sont pas acceptables dans Plan Israël, pourquoi? On n'accepte pas les convertis d'Amon et Moab parce qu'ils se sont disqualifiés sur le plan du Chesed. Quand on rencontre des gens dans le désert, ceux qui sont en position de le faire doivent les aider, leur donner de l'eau et pas du pain, une chose, et eux ne l'ont pas fait. Bien, ça les a disqualifiés complètement. Ils ne peuvent même plus entrer dans le clan d'Israël. Il y a une grande question sur les Bnei Noirs. On vient de décrire un peu les caractéristiques des Bnei Noirs. Les Bnei Noirs, comme leur nom le dit, ils sont les descendants de Noirs. Descendants de Noirs, ça veut dire ils sont les descendants des survivants du Maboul, c'est-à-dire les trois fils de Noar, avec leurs épouses, ont eu des enfants. Noar, Ham et Knan ont empêché Noar d'avoir un quatrième enfant. Mais donc ce qu'on appelle les Bnei Noar sont les descendants des fils de Noar. Fils de Noar qui s'était partagé le monde. Donc, ce sont les descendants de Noar. On parle du Noar qui après le Maboul. Bon, puisque les antédiluviens, c'est les trois fils avec leurs femmes. Et ensuite, les gens sont descendants du Noir d'après le Maboul. Et donc, ce Noir d'après le Maboul, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que fait Noir après le Maboul? Dans la Torah, c'est marqué que Noir après le Maboul, il a vécu 350 ans. Il n'a pas eu d'enfants. On ne nous dit pas qu'il a construit des villes. On ne nous dit rien du tout. On dit une seule chose. Il n'y a qu'une seule chose que la Torah nous dit au sujet de Noé. Il a planté une vigne, il s'est enivré. Bon, ensuite, il a été maltraité par Ram et Knan. La Torah nous dit donc, de Noar. Noar, c'est un tzaddik. Discuter est-ce qu'il était aussi grand ou pas qu'Abraham, mais certainement pas, mais bon, mais c'est un tzaddik. Tout ce qu'on a à dire de Noar, c'est qu'il s'est enivré. Tout ce qu'on sait, la Torah nous dit ça, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a à dire sur les Bnei Noar? Alors, premièrement, on est obligé de dire qu'il y a là bien plus qu'une information anecdotique que Noir a trop bu et était saoul. Parce que c'est évident que la Torah, elle va pas nous raconter ces choses-là. Donc, si la Torah nous raconte cet épisode et que c'est tout ce qu'on nous raconte de Noir, c'est qu'il y a là quelque chose de très important, il faut comprendre. La question, elle se peut se poser de façon élémentaire, c'est-à-dire, pourquoi Noir a-t-il bu? Pourquoi Noir s'est-il enivré? Alors, il y en a qui disent, c'est très simple, des Rishonim qui disent, mais Noir, il buvait déjà avant, mais il buvait, et ça rendait pas ivre. Bon, les choses ont changé au moment du déluge. Tout a changé. Donc, il a bu comme il buvait avant et ça l'a enivré. Donc, ce serait simplement une information qui dirait que le pouvoir enivrant du vin est devenu beaucoup plus puissant après le déluge. Ah bon, il buvait toujours la même quantité, mais ça l'a enivré. Même si on dit ça, c'est d'abord pas très intéressant. Bon, c'est une information sur le, je sais pas quoi, le caractère enivrant du vin d'après le déluge. OK, c'est un fait d'expérience. Maintenant, il faut aller regarder pourquoi il boit. Ben oui.
Qu'est-ce qu'il va chercher là?
Alors, le problème, c'est pourquoi il cherche l'ivresse. Quand quelqu'un boit, en général, c'est qu'il a une raison de boire. Pas seulement qu'il a soif. Donc, pourquoi est-ce qu'il boit? Des fois, quand quelqu'un boit, c'est des fois pas le problème. Parfois, de boire, c'est la solution, c'est pas le problème. C'est-à-dire que dans une situation où il savait pas quoi faire, insupportable, ben, il a essayé de fuir la situation. Mais c'est pas une bonne solution. Pourquoi c'est pas une bonne solution? Parce qu'il arrive un moment où on dessoule.
Raph, est-ce que vous m'entendez?
Oui, on vous entend.
Ah, bonsoir. En réalité, il se trouve que j'ai assisté à une formation sur le stress
Voilà,
post-traumatique,
c'est
qui
ça.
était fort intéressante et qui peut peut-être éclairer l'attitude de Noir, c'est-à-dire que lui et ses fils, ses belles-filles ont assisté à la destruction de l'humanité.
Vous avez raison, c'est une des deux, c'est une des autres solutions. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, je
Ah,
parle.
pardon. Ah, donc, je vous
Vous
laisse
avez
alors.
raison, mais effectivement, ils ont assisté à un traumatisme. Surtout lui, visiblement, les fils, ça les a moins impressionnés. En tout cas, lui, il a assisté à quelque chose qui est traumatisant et il s'en est pas remis et pour ça, il a besoin de boire. Bon, mais du coup, ça nous dit quelque chose du bouleversement qu'était le Maboul, mais ça, on a déjà une
C'est
idée
ça.
par ailleurs. pas très satisfaisant pour nous expliquer pourquoi la Torah nous le dit. Alors la Torah, elle nous le dit.
Oui, vous avez fait
Vous pouvez bien fermer, s'il vous plaît,
ça.
votre micro.
Oui,
S'il vous plaît.
excusez-moi.
Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut essayer de comprendre? Alors en vérité, Noah, il est devant ce désastre, ce monde complètement détruit. Et il réfléchit, il se dit, faut que je comprenne pourquoi le monde a été détruit. Parce que si je comprends pas, on va reproduire les mêmes choses et ça sera de nouveau un monde qui mérite d'être détruit, qui même si Hachem a promis qu'il le détruirait plus de cette manière-là, il le détruira peut-être d'une autre manière. Et donc, il a essayé de réfléchir sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a détruit le monde. Et dans son analyse, il a réfléchi et il est arrivé à la conclusion qu'il fallait aller regarder chez Adam Arishon. Fil en aiguille, il est allé regarder la faute d'Adam Arishon. Alors, on voit que bon, il a s'est occupé de la faute d'Adam Arishon. Alors maintenant, il faut qu'on aille regarder nous aussi la faute d'Adam Arishon. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'Adam ait fauté? Hachem avait dit, vous pouvez manger tous les fruits d'Adam, enfin, tous les arbres du Gan Eden, et il y avait tous les arbres possibles dans le Gan Eden. Il y en a un seul dont vous ne pouvez pas manger. Un seul. Vous pouvez pas en manger. OK. C'est pas si terrible de ne pas pouvoir manger d'un alors qu'on a tous les autres. Mais évidemment, quand Adam a été créé, quand je dis Adam, c'est Adam et Chava, bien sûr. Et ils n'avaient pas de Yetzer Hara en eux. Comme ça qu'on l'explique. Et s'il n'y avait pas de Yetzer Hara, il n'y avait pas non plus de Yetzer Hatov. Ça veut dire que le problème du Yetzer Hara qui était là dans le monde, Yetzer Hara, il était extérieur. Alors, façon générale, c'est une donnée du problème que on aurait très bien pu imaginer que pour nous aussi, le Yetzer Hara n'était que, comme les Yetzer Hatov, ne sont que extérieurs et que l'homme circule entre deux pôles. Il doit choisir lequel. Il faut choisir lequel, mais c'est pas obligatoirement une guerre intérieure ou alors, on aurait pu imaginer que c'est une guerre entre, bon, les deux tentations. Alors, effectivement, comme le Yetzer Hara, il est représenté par le Nahash, par le serpent, donc il est extérieur. Et comment est-ce qu'il peut avoir un impact sur l'homme? Il faut dire que l'homme, c'est pas, si vous voulez, une paroi verticale gelée sur laquelle on n'a aucune prise, parce que sinon, ben, Yetzera, il n'aurait aucune prise sur Adam. Et puisque Adam a fauté, c'est qu'il y avait une possibilité qu'il faute. Donc il n'a pas Yetzera, mais il a la possibilité d'être séduit parler de Sahara extérieur. Pardon? Ça va besoin d'être une raison. C'est ça l'histoire. Le paradoxe, c'est que il y a des prises possibles, comme si on peut grimper sur la paroi n'est pas complètement lisse. On est obligé de dire ça, sinon ça marche pas. Et donc, le Yetzer Hara est à l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ce Yetzer Hara, pourquoi il agresse l'homme, en fait? Pourquoi le Nachash s'occupe de l'homme, l'être humain? Alors, Chazal disent la chose suivante. Quand on parle de la relation entre Adam et Chava, on parle de date. On parle de connaissance. On dit qu'Adam a connu Chava. Donc ça veut dire que le mot date, il veut dire intimité. Entrer dans l'intimité de l'autre. Être en une relation d'intimité. Le mot date, c'est ça. C'est être suffisamment proche pour entrer dans l'intimité. Adam et Chava avaient cette relation donc d'intimité. Ils n'ont pas pris de précautions. Et le Nachash, il a vu cette intimité. Et il a eu envie d'avoir lui aussi cette intimité. L'intimité que Adam avait avec Chava, il dit, mais pourquoi pas moi? Et donc, il avait un plan, a priori, de tuer Adam pour pouvoir prendre Chava. Bon, ça n'a pas vraiment marché puisque c'est Chava qui a fauté la première, donc c'est pas Adam qui va mourir en premier. Si quelqu'un meurt, c'est elle qui va mourir avant, donc il n'aura rien gagné, point de vue-là. Bon, c'est. Alors il a entrepris Chava, il parle avec Chava parce que elle était disponible, quoi. Et il prêche le faux, d'ailleurs. Il lui dit, bien entendu, vous êtes dans ce jardin, mais vous pouvez manger d'aucun des fruits de ce jardin. Alors, il ne dit pas du tout. On peut manger de tous les arbres, tous, absolument tous. Il n'y en a qu'un seul. Il fait exception. Etzadat Tovara. Là, on ne peut pas manger. Et tout le reste, on peut. Et le problème, c'est que le Narach, il a fait parler Chava. Chava, elle a dit deux mots de trop. Chava a dit, on peut manger de tous les arbres, mais de cet arbre-là, on ne peut pas manger et on ne peut pas le toucher. Or, il est clair que ne pas le toucher, ça n'a jamais été dit par Hachem. Hachem n'a jamais interdit de toucher l'arbre en question. Pourquoi est-ce qu'elle a dit cela? Alors vraisemblablement, on a ici un grand problème. Le problème, c'est que c'est marqué dans Pirkei Avot au début, que les Chachamim doivent faire des barrières autour des interdits de la Torah. Pour qu'on ne se casse pas la figure, il faut mettre des barrières. De sorte que si on venait à franchir la barrière, on ne serait pas encore dans le trou. Seulement, la vérité, c'est que quand tu mets des barrières, c'est un peu, c'est pas vraiment satisfaisant. Pourquoi? Parce que deux choses l'une. Ou bien tu dis que c'est une barrière. Alors il y aura des gens qui diront, oui, moi j'ai pas besoin de barrière, moi je suis assez fort, j'ai pas besoin de barrière, et la barrière ne fera pas obligatoirement son travail. Ou bien on va considérer la barrière au même titre que l'interdit lui-même. Et c'est ce qui s'est passé avec Rava. En tout cas, c'est comme ça que le Nahash qui savait que ce n'était pas vrai, qui savait ce qu'Hachem avait interdit, il savait qu'elle a dit quelque chose de trop. Alors il y a un Midrash qui dit que il a compris que c'était là la faille dans le discours de Rava, il l'a poussé. Elle a touché l'arbre. Et tu vois, t'as touché, c'est rien passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, c'est pas vrai que c'est interdit. C'est pas interdit au sens où ce serait mauvais pour vous. Pas du tout. C'est, alors, il va tenir ce discours, il va dire, voilà, Hachem vous a interdit cela, Elohim vous l'a interdit, parce que lui, il en a mangé, c'est pour ça qu'il est devenu Elohim. Il ne veut pas que vous deveniez comme lui, et donc il vous empêche de le manger pour que vous ne deveniez pas comme lui. Non, c'était ça, c'est pas une conséquence de ça. C'est que maintenant l'explication, c'est pourquoi Hachem vous a interdit de manger. Puisque c'est pas vrai. Puisqu'en vérité, il vous arrive rien quand on. Donc, tu vois bien, tu l'as touché, il t'est rien arrivé. Donc, tout est faux. C'est pas vrai qu'on n'a pas le droit d'en manger. Alors, pourquoi Hachem vous a dit il ne nie pas? Bien sûr, Hachem vous a dit que vous n'avez pas le droit d'en manger. Pourquoi il vous a interdit d'en manger? Pour lui donner une explication. Si c'est pas vrai, si c'est pas mauvais pour vous, c'est que c'est lui qui est intéressé à ce que vous n'ayez pas la possibilité de devenir comme lui. Comme ça que fonctionne. Alors, un instant. Alors, elle a touché. Si elle avait eu le temps de réfléchir après coup, même quand elle a touché, elle aurait pu lui dire, c'est vrai qu'il fallait pas toucher, mais moi, je devais pas prendre l'initiative de toucher. J'ai pas pris l'initiative, c'est toi qui m'as poussé. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelque chose est interdit, il y a deux sortes d'interdits. Si on vous dit ne touchez pas à la ligne électrique, il n'y a pas de différence si vous touchez volontairement ou si on vous pousse dessus. Par contre, si c'est un autre interdit, l'interdit peut être de toucher, mais si on te pousse, ben, pousser, ça n'a pas d'importance. Ce qui était interdit, c'est de volontairement toucher. Mais là, je n'ai pas touché volontairement. Elle aurait pu lui dire, personne ne dit que c'est une ligne électrique. Bon. Et donc, ta démonstration, elle ne vaut rien. Tu as fait la démonstration que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Tu m'as poussé. Et donc, ce n'est pas significatif. Seulement, le génie, si on peut parler comme ça, du Yetzara, c'est qu'il ne laisse pas le temps de réfléchir. Il a tout de suite donné une explication. L'explication, c'est, comme on a dit, Hachem ne veut pas que vous soyez comme lui, et c'est pour ça que vous a interdit, etc. Et à partir du moment où on présente les choses comme ça, alors tout à coup, le fruit, il lui apparaît très, il est beau, il est puissant, il apporte la sagesse, etc. Il a toutes sortes de qualités qu'il n'avait pas avant. Le fruit n'était pas si séducteur avant. Mais à partir du moment où, en fait, c'est simplement un moyen d'accéder au savoir, etc., bon, alors, ça devient très intéressant. Et donc, il la pousse à manger. Elle va manger maintenant, puisqu'il n'y a plus d'interdit, et qu'au contraire, ça va t'apporter quelque chose. Mais immédiatement après qu'elle a mangé, elle a compris qu'elle s'est fait avoir, c'est toujours comme ça. Quand le désir n'est plus là, alors tous les arguments contre reviennent à toute vitesse. Elle comprend qu'elle va mourir, elle comprend qu'elle devient mortelle. Mais si elle devient mortelle, mais Adam, lui, il n'a pas mangé, lui, il ne va pas devenir mortel. Alors, il y a des midrashim qui disent, elle a calculé que ça voulait dire qu'Adam, il allait prendre une autre femme. Il ne voulait pas ça. Il a décidé qu'il allait manger aussi. Et comme elle ne peut pas lui donner du fruit directement parce qu'il ne va pas manger, il y a un midrash qui dit qu'elle a réduit le fruit en purée. Elle lui a donné de la purée. Et lui, il a mangé de la purée. Donc, il faut faire attention quand on vous donne de la purée. Chercher l'origine.
Il a occupé l'espace.
Pardon?
Il a occupé tout l'espace. Ce qui fait qu'elle était.
C'est ça le but de l'exercice. Il a pris possession d'elle. C'est-à-dire, le Yetzer Hara, sa fonction, son désir, c'est de prendre possession de l'homme. Alors, voilà. OK. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est quoi l'argument qu'il a donné? L'argument, c'est vous pouvez vous débrouiller tout seul. Vous n'avez pas besoin d'Hachem. Pas besoin d'Hachem. Tu peux te débrouiller tout seul. Tu peux tout faire tout seul. Hachem, pardon, Adam Arishon avait une relation avec Hachem. Et il avait une relation de connaissant, il connaissait Hachem, c'est-à-dire il avait une relation d'intimité avec Hachem. Quand on nous dit qu'on a une mitzvah d'être d'avouk Hachem, de coller à Hachem, c'est bien ça, c'est ça cette idée d'intimité avec Hachem. Être au plus près avec Hachem. Et ce que le Nachash dit, on n'a pas besoin. Pas besoin. On n'a pas besoin de cela. On n'a pas besoin de cette intimité avec Hachem. Ce date, on n'a pas besoin de connaître Hachem. On peut trouver tout seul. Bon, c'est un peu paradoxal parce que lui, ce qui le meut, c'est justement le désir d'intimité avec Rava. Et il leur tient le discours, on n'a pas besoin d'intimité. L'idée est probablement qu'on n'a pas besoin d'une intimité, disons, transcendante, c'est-à-dire une intimité avec Hachem. L'intimité avec son prochain, l'intimité d'un homme avec une femme, c'est suffisant pour ouvrir en quelque sorte. À quoi ça sert l'intimité avec le transcendant? C'est ouvrir à l'autre, quoi, l'autre par excellence. On dit non, l'autre avec un petit a, comme on dit, l'autre, la femme qui est l'autre de l'homme ou l'homme qui est l'autre de la femme, ça suffit. Ça permet d'ouvrir. Puisque tu t'ouvres à l'autre. Donc, on n'a pas besoin du tout de cette intimité avec Hachem. On n'a pas besoin donc de ce savoir transcendant. Pas besoin de ça. Tout est dans ce monde-ci et tu n'as besoin de rien et tu n'as tu peux vivre en autarcie en quelque sorte, complètement. Donc, c'est ça la caractéristique. C'est ça la faute. C'est ça la destruction du monde. Destruction du monde, elle vient justement de cette fermeture de chacun sur soi, de cet égoïsme. Et cet égoïsme-là, il devient même l'égoïsme des peuples. Par excellence, c'est la situation de Sodome. À Sodome, on dit tout pour nous, rien pour les autres. Si quelqu'un vient à Sodome, on lui interdit de profiter d'une quelconque manière de Sodome. On n'a rien à donner aux autres. Et pour que ce soit bien clair et qu'on veut personne, l'étranger, toute personne étrangère qui arrivait à Sodome, elle était systématiquement dépouillée de ses biens et violée. C'est ça. Comme ça, les gens savaient qu'il n'y a pas avantage à venir à Sodome. C'est pour ça que Sodome a été détruit. Parce qu'il s'est passé à l'échelle de Sodome, il s'est passé à l'échelle de l'humanité avec le Maboul. Et en fait, Noach, qui veut réparer la faute, parce que si on ne répare pas, il va continuer, ça va avoir les mêmes conséquences. Il veut réparer et il voit pas comment il n'arrive pas. Et en fait, pour essayer de comprendre, vraiment d'aller jusqu'au bout, il va faire comme eux. De la même manière que Adam et Chava se sont cachés devant Hachem. La situation, une fois que ils ont mangé, ils se sont cachés. Alors, Hachem, il y a le Ayeka, Hachem leur demande où êtes-vous? Bien entendu, la réponse à la question d'Hachem, c'est pas, on est par tant et tant de degrés de latitude et de tant et tant de longitude. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est où en es-tu, c'est-à-dire par rapport à toi-même. Qui es-tu maintenant? Alors, il dit, on s'est caché parce qu'on est nu. C'est pas convenable de se présenter devant le roi des rois, nu. Hachem lui dit, mais qui t'a dit que tu étais nu? Auparavant, ils étaient nus, ça ne dérangeait personne. Qui t'a dit que tu étais nu? Est-ce que par hasard, tu aurais mangé du fruit dont je t'ai dit qu'il ne fallait pas en manger? C'est lui qui t'a dit. Donc c'est le Nachash qui t'a dit que tu étais nu. Hachem leur a fait des vêtements. Mais en fait, il les a chassés du Gan Eden. C'est-à-dire que c'est fini, c'est un autre monde maintenant. C'est un monde dans lequel l'homme vit avec cette idée qu'il pourrait s'en passer. Et vient Abraham et qui dit on ne peut pas s'en passer. Pas se passer.
Pourquoi est-ce que la nudité, la conscience de la nudité, marque un rupture avec la chute? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose?
C'est ça, c'est quelque part, il y a une façon de ne pas admettre d'être tel qu'on est. On est obligé de se cacher, les vêtements s'en cachent, ça couvre. Donc ça veut dire, j'ai compris. quelqu'un avec, disons, d'avoir mangé de ce fruit, je ne voulais pas qu'il mange, ça rend mortel, c'est-à-dire qu'il y a des choses négatives, donc il y a de la mort dans le, de la mort dans le corps humain, quoi, quelque part. C'est-à-dire le problème de la honte. Bon, ils sont honteux, ils ne peuvent pas assumer ce qu'ils sont devant Hachem. Parce que tu as compris qu'en fait, tu t'es disqualifié. Alors en fait, Noach, il va se cacher dans sa tente. Et pour essayer de comprendre, ben il va se dénuder aussi. Il a été dénudé, donc il se dénude. Mais lui, il se dénude dans sa tente. Il n'y a pas de. Il s'est caché, mais il est quand même, il a l'expérience du dénudé. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire, il n'arrive pas à se libérer, en quelque sorte, de la trace de la faute d'Adam. C'est-à-dire, de penser que, à penser à soi, il n'arrive pas à penser aux autres. Bien que dans l'arche, il ait travaillé pour les autres, il n'a pas arrêté de nourrir tous les animaux, etc. Et ça, c'était un monde à part. Un monde en dehors du monde, en fait. Maintenant qu'il est dans le monde, ben il pense à lui, quoi, quelque part. Non, il était capable, mais lui, il a cherché et il n'a pas trouvé. Il a pas. Quand quelqu'un réussit pas, ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas. Il n'a pas trouvé la solution. La solution, c'était, en fait, c'est que il est déjà, si vous voulez, les choses sont faussées d'avant le déluge déjà. C'est vrai qu'il a été sauvé, mais quand, après le déluge, quand Hachem, quand il dit à Hachem, mais comment on peut faire, comment c'est possible d'avoir détruit ce monde et que tous les gens sont morts, etc. Alors le Midrash dit que Hachem dit, voilà, tu te réveilles maintenant tout à coup? Pourquoi t'as rien dit à tes contemporains? Il a construit l'arche toutes les années. Il a supporté les moqueries, mais il ne les a pas incités à faire tchouva. Pourquoi t'as rien fait? Maintenant tu te réveilles? Donc, c'est trop tard. Il y a quelque chose d'irrattrapable. Quelque part, tu penses que c'était pas juste de détruire le monde, etc., mais il y avait une possibilité de peut-être de ne pas le détruire. Si toi tu avais parlé, peut-être qu'il t'aurait écouté. Peut-être non, mais en tout cas tu aurais, toi, qu'est-ce que tu pouvais faire? Ça marche pas toujours. Abraham, il négocie pour Sdom, mais ça marche pas. Parce que les conditions sont trop pourries à Sdom. Enfin, il n'y a pas 10 justes qui permettraient de sauver la ville.
Non, c'est un second, il écoute.
Oui, c'est ça. C'est la différence. C'est marqué que Noach, il marchait avec Hachem. C'est-à-dire, Hachem lui donne la main, il marche. Il est capable de marcher quand Hachem. Avraham, il marche devant, l'ifné Hachem. Donc, il invente. Il invente, il vérifie toujours qu'il ne s'est pas éloigné en inventant, mais il invente. Et donc, c'était ça que, à la limite, Noach n'a pas de futur. Il n'est pas capable de penser le futur. Parce qu'il va seulement avancer avec Hachem. Il n'invente pas, il n'y a pas de futur.
Oui, mais Rav, Abraham peut bénéficier de l'expérience de Noé et donc de ce fait ne pas refaire la même erreur.
Oui, c'est possible, effectivement, que Abraham a bénéficié de l'erreur, enfin de l'erreur de Noir, c'est possible. Il était capable d'en faire quelque chose. Vous avez raison. C'est peut-être, il fallait en passer par Noir pour arriver à Abraham. Il a fallu 10 générations entre Noir et Abraham.
Et de fait, l'avenir de Noir, c'est Shem. Enfin, il y a aussi les autres, mais
Alors,
il a quand même un
ce qui
avenir.
va se passer, c'est que, effectivement, ça va passer par Shem, plus exactement par Éver, le petit-fils de Shem, qui va être le maître d'Abraham. Le maître d'Abraham, c'est un petit-fils de Shem, c'est-à-dire un arrière-petit-fils de Noach. Et Éver, le petit-fils en question, il est son maître et il est aussi son parent. Enfin, il est descendant. Abraham descend de Éver. C'est ça qu'il appelait Abraham à Ivri. Ivri, il y a eu plusieurs drachotes, mais un des sens, c'est il est Ivri parce qu'il est descendant de Éver. Alors, c'est un peu par désespoir, en fait, je pense, que Noah boit. Il boit parce que il est obligé de fuir une situation qu'il ne sait pas. Il ne sait pas la maîtriser, il ne sait pas comment faire. Ben, il va fuir la situation. C'est la solution qu'il a trouvée. Alors évidemment, ce n'est pas une bonne solution. Non. Ce qui est intéressant, c'est que Ham et Knan, ils le voient, ils se conduisent mal par rapport à lui. Ils se conduisent mal par rapport à lui parce que Ham ne veut pas partager le monde avec un quatrième frère. J'ai partagé le monde à trois, mais je ne veux pas de quatrième. C'est vrai que, en plus de ça, s'il y avait eu un quatrième frère, il n'aurait pas été du tout sur la même longueur d'onde que les autres. Les trois autres étaient rentés du lien. Lui, il est né après. De quoi tu parles? Il connaît rien, quoi. En tout cas, ils ne voulaient pas. C'est ce qu'ils ont fait pour rendre Noir incapable d'avoir un quatrième fils, ils l'ont traité pour qu'il puisse pas en avoir. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la situation de Noir? Veut dire que eux, ils pensaient que Noir, si les choses se passaient normalement, il va avoir un quatrième fils. Donc il faut l'en empêcher. Mais ils ont pu l'en empêcher parce qu'il était dans une situation de faiblesse. Non, ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils lui ont fait. Et il était dans une situation de faiblesse parce que il a compris que normalement, d'avoir été sauvé, normalement, ça l'oblige à trouver une solution pour le nouveau monde, en fait. Et il ne la trouve pas. Il n'est pas capable de la trouver.
Comment ça se fait dans un moment, pendant le temps, Noir, puis, au cas où, quand voilà, j'ai été pris de conseil, il m'a dit, je crois que c'est bien. Il a prié pour Hachem, aide-moi.
Pardon? Il a?
Dans une connaissance, Noir, on n'entend pas une prière de Noir.
Non? Oh, justement, il n'a pas prié, il n'a pas fait de Torah, il n'a pas fait de remontrance à ses contemporains. Lui, il était fermé sur lui-même. J'ai ce que j'ai, ça suffit très bien, tant pis pour les autres.
C'est donner, comme chef d'entreprise, c'est donner une mission à quelqu'un, donc vous savez, malheureusement, il est incapable. Est-ce qu'il est capable de retrouver une relation d'intimité avec la femme à la femme?
Non. Quand on s'enivre parce que ça marche pas, c'est pas qu'on pense que ça va marcher si on s'enivre. C'est-à-dire que la situation est insupportable, alors je fuis. Je vais dans l'inconscient, dans l'inconscience. Je vais dormir, je vais prendre de la drogue qui va me faire, je vais changer de monde. Mais ça marche pas d'abord parce qu'on est saoul, oui.
Mais Noor n'est pas le seul à s'être un petit peu désolidarisé de de l'ouverture à l'autre. Yona, lui aussi, a refusé d'aller sauver toute une population qui n'allait
Non,
pas.
mais Yona, il a pas. Yona, c'est pas ça sa motivation. La motivation de Yona, c'est qu'il voulait pas accuser les Bnei Israël. Lui, il dit, on a envoyé des dizaines de prophètes aux Bnei Israël, ils n'ont pas fait tshuva, et il a compris que s'il fait des remontrances aux gens de Ninevé, ils vont faire tshuva. Donc ça va être une énorme accusation contre le peuple juif. C'est la raison pour laquelle il n'y va pas. Il voudrait ne pas y aller. Et finalement, il y va et effectivement, ils font tchouba. Donc effectivement, il y a cette accusation. Eux, ils ont fait tchouba avec une remontrance. Les Bnei Israël avec 48 prophètes, prophétesses, etc. Ils n'ont pas fait tchouba. Et c'est ce que Yona voulait éviter. C'est pas qu'il voulait pas. Il voulait bien que les autres fassent tshuva aussi. Mais le problème, c'est que c'était une telle accusation contre Israël qu'il n'avait pas envie de cela.
D'avoir une question noire, le rouge.
Oui, c'est ça. Il aurait dû trouver de l'énergie parce que si on m'a sauvé, c'est pour que je fasse quelque chose. Vous avez la même chose, vous avez des gens qui ont été sauvés pendant les camps, pendant la guerre. Il y a des gens qui ont dit, ben, du coup, j'ai été sauvé, c'est pas pour moi, c'est pour que je fasse quelque chose pour le peuple, pour le peuple juif, d'une manière ou d'une autre. Et puis il y a d'autres qui disent, il n'y a rien à voir. Ils se referment sur eux-mêmes. Non, mais les korbanot, il a reçu des. C'est pas son initiative. Il a fait entrer dans l'arche des animaux pour. Il savait que on te donne ces animaux-là pour que tu fasses un korban. C'est pas qu'il a pris il aurait pu faire des méchouis, au lieu de faire des méchouis, il en a fait des korbanot. Ces animaux-là ont été donnés pour qu'on puisse en faire des korbanot. Oui, c'est un rapprochement, mais c'était un truc qu'il était obligé de faire. C'est pas quelque chose qu'il a inventé. Il a pas. C'est un korban, à la limite, sur le mode des korbanot d'avant le déluge. Non, pourquoi? Non, au contraire, les filles de Lot, elles pensent qu'elles sont les seules survivantes du monde. Elles se sentent responsables d'assurer la pérennité de l'espèce. La critique des filles de Lot, c'est le nom qu'elles ont donné. C'est un manque de tzniout dans de. Elles auraient pu appeler leur enfant Toto, machin truc, pas obligé d'annoncer à Ourbi et Torbi que ce gosse-là, je l'ai eu avec mon père, ou bien ça, c'est de mon peuple. C'est étonnant d'ailleurs c'est vrai qu'elles lui ont donné un nom, elles lui ont donné à ses enfants des noms qui expriment ce qu'étaient ses enfants. Mais pour des raisons de tzniout, il fallait peut-être ou l'écrire de façon beaucoup plus sophistiquée, plus recherchée, quoi. Si on devait exprimer, si leur nom doit comporter la référence du père ou ouais, du père, peut-être qu'il faut la mettre de façon, je sais pas, en valeur numérique ou quelque chose, mais pas mot havre. Elles ont assumé complètement le rôle, mais ce n'était pas nécessaire de publier. Pardon? Oh, c'est par manque de tsniout, probablement. Elles ont quand même, il y a quand même quelque chose de tellement positif qu'elles ont quand même donné naissance à deux femmes qui vont jouer un rôle fondamental dans la chaîne du Machiav. Mais ils pouvaient pas, ils pourraient se dire quoi que, et sa descendance, c'est les gens qui ont été sauvés, qui étaient d'avant le déluge. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire que, alors, Shem, c'est directement son fils, et Ver, c'est son petit-fils. Oui, c'est sûr que c'est Abraham, c'est la descendance de Noé. Et tout le monde est la descendance de Noé. Mais bon, lui, il est du bon côté, la descendance de Noé. Mais ça, quasiment, il y est pour rien, quoi. À la limite, il y est pour rien parce que ce sont ses enfants qui ont décidé d'avoir des enfants. Justement, lui, on l'a pas laissé. Ses enfants lui l'ont pas laissé avoir un enfant d'après le déluge. Parce que cet enfant, il n'aurait pas été comme ses frères, mais peut-être justement, lui, il aurait été conçu. Il n'a pas vécu le déluge, enfin, la mauvaise conduite qui a mené au déluge. Donc, cet enfant-là, il aurait pu être justement Abraham directement, quoi. Non, ils n'étaient pas terribles. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'on discute de la. Il est sadique, mais avec un bémol. Bon, yes, ça dépend. Voilà. Bon, pas les tromper, mais les empêcher de. Oui? Il dit on a. Oui? Il veut pas qu'il y ait d'intimité entre Adam et Hachem. Oui. Oui, C'est déjà une altérité, donc c'est déjà une ouverture. Oui, on peut le voir comme un pas vers Hachem, mais on peut se dire, ça me suffit, quelque part, on n'a pas besoin de plus que ça. C'est suffisant, il n'y a pas besoin de transcendance. Limite, l'avantage de ce que propose le Nachash, c'est que c'est une intimité qu'on peut fabriquer tout seul. L'intimité avec Hachem, c'est difficile à penser, c'est difficile à réaliser. Je veux dire, bon, pour Adam, ça allait encore, mais à partir de nous, maintenant, pour établir cette Dvoukim Bachem, ça veut dire être intime. Donc, c'est quelque chose qui nous est demandé aussi, à nous. Et pour nous, c'est difficile. L'intimité horizontale, elle est plus facile à fabriquer qu'une intimité verticale.
Or, la tâche que nous demandons à HM, ça nous responsabilise, ça nous élève, ça nous responsabilise. L'altérité d'une tâche, on restera des pâquerettes, on n'a pas de vertu. Ce n'est pas une vraie vertu. Cette force un peu l'influence de l'élimination, là, dans l'autre, qui nous transforme et qui nous élève, qui nous responsabilise, là, c'est horizontal, le sens.
Mais c'est aussi une responsabilité de prendre soin de l'autre. C'est quand même. Ça ne fait rien, mais c'est un autre quand même. Je m'occupe de quelqu'un d'autre que moi. Vous savez bien, là, y compris dans un couple, on peut très bien imaginer que le couple ne fonctionne pas parce que chacun s'occupe que de lui.
C'est difficile d'avoir un regard.
Oui, c'est difficile peut-être, mais c'est peut-être possible quand même.
Par rapport à
Le recette, c'est justement ça. Donc, c'est ouvrir. D'accord? Et donc, la relation avec Hachem, elle implique de s'ouvrir complètement, parce que là, en totale confiance, je peux ouvrir complètement. Je peux être complètement nu, quoi, quelque part. Je n'ai pas peur. Devant Hachem, il n'y a pas de problème. La nudité, en réalité, elle n'existe pas par rapport à Hachem. Ce n'est pas un problème par rapport à Hachem. Je peux m'ouvrir totalement. En théorie, on pourrait dire, voilà, j'ai une personne d'entière confiance, je pourrais m'ouvrir complètement. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est 99% et pas 100%? C'est un être humain, l'autre, c'est un être humain. Donc, il y a quand même toujours quelque chose de différent, enfin, un quant à soi, quoi, quelque part.